Ce que je vous propose pour commencer cette série d'études bibliques sur la question du pardon, c'est justement de jeter un coup d'œil sur le programme que je vous ai proposé, en vous rappelant que c'est une proposition, qu'on peut en cours de route l'adapter un peu comme vous le souhaitez, et on va se serrer, on va faire corps les uns près des autres. Alors, aujourd'hui, on va aborder la question du mal, j'y reviendrai dans un instant. Au mois de novembre, il y aura la question du pardon originaire.
Imaginaire.
Alors, c'est écrit imaginaire, mais c'est originaire. C'est l'idée d'un pardon qui précède. Voilà. Vous savez, c'est un peu un clin d'œil au fait qu'il y aurait une sorte de péché originel. Eh bien, je crois que au péché originel, il vaudrait mieux répondre la question du pardon originaire. Ensuite, le mois de décembre sera l'occasion du travail de mémoire. Vous savez, on a souvent parlé du devoir de mémoire. Le travail de mémoire, c'est l'expression de Paul Ricoeur qui me semble plus intéressante parce qu'à la fois, elle nous laisse davantage libre, alors que le devoir, ce n'est pas forcément quelque chose qui exprime la liberté de prime abord. Et le travail de mémoire, parce qu'on sait bien à quel point la question du pardon et de la mémoire sont extrêmement liés. On le sait notamment pour la question de la Shoah, par exemple. Et de façon générale, on sait qu'on hésite toujours pour savoir si le pardon n'aurait pas quelque chose à voir avec l'oubli. Bien. Donc, le travail de la mémoire. Le mois de janvier, en fait, c'est la question de la justice, essentiellement. On sait que, là aussi, la question de la justice semble nécessaire dans un processus de pardon. Donc, on verra comment les choses peuvent se nouer, se jouer. Au mois de février, ce sera peut-être un peu plus théologique. C'est la question du grand pardon, le fameux jour du grand pardon avec le Yom Kippour. Donc l'idée, c'est de voir comment est-ce que dans le texte biblique, cet élément qui pour nous est peut-être plus culturel que spirituel, hein, c'est tout à fait encore enraciné dans la foi juive, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui ne rythme plus notre vie cultuelle, par exemple. Comment est-ce que donc le Yom Kippour est présenté dans la Bible? Et puis j'en profiterai pour vous présenter un peu la notion du sacrifice dans le livre du Lévitique aussi, qui est quelque chose qui nous est assez étranger, et voilà, sans forcément vous demander d'adopter le régime sacrificiel, au moins vous rendre familier à ce que cela était. Mois de mars, l'amour, c'est pour le printemps. L'amour, grâce du pardon. On verra comment, en régime chrétien, l'agapé, la charité, l'amour du prochain, dit quelque chose du pardon. En fond, le pardon, est-ce que ce n'est pas ce qui est sous-jacent à l'éthique chrétienne? Oui. 26 avril, il y a la question du vendredi saint, etc. Ne pas pardonner. Je pensais que c'était quelque chose qu'il ne fallait pas escamoter. C'est peut-être même d'ailleurs, je trouve, l'étape la plus importante avec celle d'aujourd'hui. Donc, nous continuons à voir un petit peu le parcours de cette année. Ne pas pardonner parce que c'est quelque chose de récurrent. Quelque chose de récurrent pour soi-même. Et puis, il y a cette question de l'impardonnable ou de l'imprescriptible, et c'est notamment Yankelevitch qui a considéré que certaines choses, et là encore, la Shoah a été déterminante dans cette question-là, il y avait de l'impardonnable. Il y avait de l'impardonnable. Alors, on verra si ne pas pardonner, c'est légitime, si c'est peut-être même profitable. Enfin bon, on abordera cette question du non-pardon. Le 24 mai, la réconciliation, c'est l'étape d'après, je dirais. C'est, certes, le pardon, ça permet de casser une sorte de cercle vicieux. Hein, ça sera un peu ce que nous verrons. Mais une fois que le cercle vicieux a cessé de faire son mal, est-ce qu'on arrive à rentrer dans un cercle vertueux, en quelque sorte? Est-ce qu'on arrive à raccommoder les choses? Certes, on n'est plus l'ennemi de quelqu'un, mais est-ce qu'on arrive à devenir son ami, en fait? Et on sait qu'il y a notamment cette question, avant de présenter ton offrande à Dieu, va donc régler tes affaires avec ton frère et te réconcilier avec lui. Bien. Et puis le 21 juin, ce sera l'été, et avant la dispersion, et que vous alliez aux quatre coins du monde pour vos congés d'été, pardonnez au quotidien. Voilà, je crois qu'il y a là quelque chose de l'éthique chrétienne, c'est-à-dire pas simplement le pardon à grande échelle, j'allais dire le macro pardon, vous savez, le pape qui, au nom de l'Église catholique, demande pardon pour ceci ou pour cela, le président de la République qui, au nom du peuple français, demande pardon pour ceci ou pour cela. Mais nous, dans notre existence, avec nos relations amicales, nos collègues de travail, nos enfants, nos parents, voilà, ça fait écho. Le pardon au quotidien dans ce qu'il y a peut-être de plus banal et de plus trivial, mais qui en fait est pour nous terriblement important en fait. Voilà. Donc c'est une proposition. Si des choses manquent, eh bien on a la liberté de les rajouter. S'il vous semble qu'il y a une étape qui peut-être est facultative et qu'il vaut mieux la remplacer, on peut en discuter. S'il y a des textes bibliques qu'il faut convoquer, convoquons-les et tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. Voilà, donc vous avez toute liberté. Oui.
Oui, je ne sais pas si c'est prévu, mais quelque chose que vous avez eu la gentillesse d'étudier spécialement avec moi, à travers l'exemple de Jacob, c'est quand on est dans la situation, se faire pardonner quelque chose.
Donc le combat de Jacob avec l'ange et la réconciliation avec Ésaü.
Parce que lui, il est dans la situation où il doit se faire pardonner quelque chose. Je ne sais pas si c'est évoqué à travers vos thèmes.
Eh bien alors écoutez, c'est évoqué dans le thème de la réconciliation au mois de mai, mais je note de rajouter Genèse 32, voir comment la fratrie qui est déchirée arrive à se renouer. Je l'avais évoqué dans une prédication, mais on pourra l'évoquer à nouveau dans le cadre de cette étude biblique, bien volontiers. Bon, puis si vous avez des idées, on voit ça après l'étude biblique et vous pouvez aussi me contacter. Alors on commence par le mal. J'allais dire, évidemment. Parce qu'il ne peut pas y avoir de pardon s'il n'y a rien à pardonner, à vrai dire. Donc il fallait bien en commencer par là. C'est-à-dire que le pardon est, le cœur, est au cœur de la théologie chrétienne, peut-être même plus de la théologie du Nouveau Testament que de celle de l'Ancien Testament. Il y a une insistance peut-être plus forte et plus radicale, mais bien entendu, il ne peut y avoir de pardon qu'à la condition qu'il y ait quelque chose à pardonner. Donc, il faut bien commencer par le commencement, et même si le mal, ce n'est pas ce qui nous fait le plus plaisir, on va commencer par là. Alors, je vous ai proposé de travailler sur le texte Ésaïe 52, versets 13 et suivants. Je vous rappelle juste une petite convention, c'est pour la manière que nous avons d'indiquer les passages bibliques. Parce qu'après tout, peut-être que ces indications pour vous sont des indications kabbalistiques, hermétiques, que vous ne comprenez pas. Alors voilà comment on fait pour, entre nous pour désigner un texte biblique. On donne le nom du livre, il y a 66 livres dans la Bible, on commence par donner le nom, donc par exemple Ésaïe. Souvent on met une abréviation quand on prend des notes, donc Ésaïe l'abréviation c'est ES. Vous avez en général au début de votre Bible la liste des abréviations. Ensuite, on va mettre le numéro du chapitre, parce que chaque livre est découpé en chapitres. Donc là, par exemple, le chapitre 52. Et puis, on met le verset à partir duquel on commence la lecture. Donc ici, c'était, on met une barre, par exemple, et on met le verset 12. Alors ensuite, on peut dire, on va lire un verset, mais on va lire aussi les suivants. Alors, admettons que ce soit tout le chapitre 52. Dans ce cas-là, on aurait juste écrit le 52. Si on avait voulu les six premiers versets, on aurait écrit 52 barres du verset 1, point de départ, un tiré jusqu'au verset 6. Quand on met un tiré, ça veut dire que ça va commencer à un endroit, ça va finir à un autre. Si on avait juste voulu les versets 1 et 4, on aurait mis 52, 1,4. Si on met un tiré, c'est de 1 à 4. Virgule, ça veut dire que c'est le 1 puis le 4. Ensuite, on va arriver donc là où on en est. En fait, nous, c'est le chapitre 52 à partir du verset 12 jusqu'au chapitre 53, le verset 12. Ah oui, c'était 13. D'accord. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on commence au chapitre 52, verset 13, et qu'on finit au chapitre 53, verset 12. Voilà. Et comme ça, prenons le cas de la fois suivante. Vous voyez Luc 5, barre 17, 26. On aurait pu l'écrire LC. Donc ça veut dire chapitre 5, à partir du verset 17 jusqu'au verset 26. Voilà. Alors, j'entends bien que ce passage du livre d'Ésaïe ne correspond pas à un discours très théorique sur la question du mal. Et donc, je vais commencer par justifier le choix de ce chapitre. Mais c'était dans mon intention de toute façon. Je vais donc commencer par vous parler de la question du mal telle qu'elle est abordée de façon classique, soit par notre sagesse populaire, soit par quelques éléments philosophiques ou théologiques. Et je vais vous proposer, avec Paul Ricoeur et avec Lita Basset essentiellement, qui a beaucoup travaillé sur la question du pardon, hein, Lita Basset qui a beaucoup travaillé là-dessus, autre chose qu'une approche, j'allais dire, théorique. Pourquoi ? Alors, on peut dire que le mal a été compris de deux manières possibles. Soit comme une substance, soit comme une absence.
Et c'est une question de liberté.
Et alors, la question de la liberté va entrer en ligne de compte. J'en toucherai un mot après dans la question de l'origine. Et puis.
À ce moment-là, cette question du mal, ça va vous parler, met en cause la toute-puissance de Dieu.
Alors, on va voir ça avec Pierre Bayle. Mais commençons par Augustin, avant d'arriver au XVIIe et au XVIIIe siècle. Augustin propose quelque chose d'intéressant, parce qu'Augustin, vous savez, il a eu une conversion dans sa vie. Il était d'abord manichéen. Donc c'est un aspect du christianisme qui joue sur les dualités, le bien et le mal notamment. Et Augustin est passé d'une conception du mal à une autre, et il nous aide à y voir plus clair peut-être. Augustin qui écrit au sujet du mal quelque chose qui est assez semblable par rapport à ce qu'il écrit au sujet du temps, grosso modo, tant qu'on ne me demande pas ce qu'est le mal, je vois très bien ce que c'est, et puis dès qu'on me demande, je suis tout embarrassé. Pourquoi ? Non pas pour les mêmes raisons que pour le temps, mais parce qu'il a la vive conscience d'être lui-même complètement imbriqué dans la question du mal, et qu'il n'a donc pas suffisamment de distance pour pouvoir en parler avec objectivité. Au fond, il est comme submergé par la question du mal, et ça l'empêche de pouvoir avoir un discours clair. Augustin, dans un premier temps, quand il est manichéen, considère que le mal est finalement une sorte de force, une sorte de substance qui lutte contre le bien. C'est l'opposition du bien et du mal en termes de rapport de force. Et on le verra après sur l'origine du mal. En fait, on imagine très bien qu'à côté du Dieu bon, bienveillant, il y a un démiurge malfaisant qui est producteur de tout ce qui ne va pas dans le monde. Organisateur du chaos, organisateur du désordre. Donc, une sorte de bipolarité dans le monde. Le Dieu bon, créateur, et puis d'un côté, un démiurge qui est à l'origine des malveillances. Et donc, si dans un premier temps, Augustin, manichéen, considère le mal comme une substance funeste à côté du bien, dans un deuxième temps, après sa conversion, il va plutôt voir le mal comme un non-être, ou comme une diminution de l'être, en termes d'absence de bien. Aujourd'hui, c'est très à la mode de parler de matière noire, de trous noirs, etc. On pourrait dire que le mal, c'est une sorte de matière noire dans l'univers du bien. Voilà. C'est quelque chose qui, en quelque sorte, voilà, est une dégradation de la qualité. Pour Augustin, le mal n'a pas d'être propre, c'est pas une chose, et a fortiori pas une personne. Je veux dire que d'ores et déjà on peut remettre en cause la question du diable, de Satan, etc., en tant que personne ayant une réalité essentielle, une ontologie. C'est pas un être, le mal n'est pas un être. Le mal est plutôt un mouvement de décréation qui va de l'être vers le néant, une dégradation. En physique, c'est le fameux deuxième principe de la thermodynamique, hein, c'est le principe de Carnot. Au fond, tout tend à disparaître, tout système tend à s'épuiser parce qu'il perd de l'énergie. Eh bien, c'est un peu ça. Le mal, c'est au fond cette déperdition d'énergie. Alors, si le mal est une diminution de l'être, la question est de savoir quel est l'impact du mal. Et au fond, ça va répondre à votre question, le mal peut agir sur trois choses, la liberté, l'intégrité physique et la représentation du monde. Et ces trois champs d'action donnent trois mots différents, et vous allez les reconnaître. La question de la liberté, le premier axe, c'est en fait le mal moral, ce qu'on appelle le mal moral. L'intégrité physique, eh bien, ça va être le mal physique. Et la représentation du monde, c'est ce qui vient après la physique, c'est donc le mal. Ce qui vient après la physique, c'est métaphysique. C'est Aristote qui nous a appris ça. Le mal moral, on va tout de suite avoir envie de dire, le mal moral, c'est le péché, en langage chrétien. Méfiance. Le mal, on l'a entendu, c'est l'absence d'un bien qui devrait être. Hein, c'est ce que Paul dit à travers « j'aimerais faire du bien, mais j'y arrive pas, et le mal que je voudrais pas faire, bah, je le fais quand même. » Il y a une sorte de fatalité, il y a quelque chose qui arrive contre ma volonté. Le mal, c'est ça, c'est cet écart qu'il y a entre ce que j'aimerais faire et ce que je ne fais pourtant pas. Et donc, vous voyez, c'est une sorte d'entrave à notre liberté. On aimerait rendre les gens heureux, et on n'y arrive pas toujours autant qu'on le voudrait. Et des fois, on veut rendre les gens malheureux, et malgré tout, on concourt à leur bonheur. C'est incroyable, ça. Bon, le mal joue sur la liberté, en ce sens qu'il nous empêche d'accomplir l'intégralité du projet qu'on a en tête. Le mal, finalement, est la non-introduction du bien dans le monde. Simone Weil, la philosophe, dit ceci, c'est une citation. « Eh bien, ce qui donne plus de réalité aux êtres et aux choses, mal ce qui leur enlève, ce qui la leur enlève. » Voyez. Donc, c'est vraiment cette idée d'entrave, de déperdition d'énergie, de rétrécissement du champ d'existence. Deuxièmement, le mal physique. Bon, bah là, je crois qu'on est à peu près tous à équidistance de ça, la souffrance. Pour une bonne part, le mal physique découle du mal moral, en fait. C'est-à-dire que souvent, l'homme produit du mal physique sur autrui en raison du mal moral. C'est-à-dire que, ben voilà, une parole de trop, et c'est l'autre qui souffre, et on n'aurait pas dû prononcer cette parole, et ça nous a échappé. Je ne veux pas dire qu'on fait des choses à l'insu de notre plein gré, mais on ne mesure pas toujours la conséquence de nos actes. Voilà. Le petit enfant qui jouait avec ma jeune fille pour s'amuser avec lui à retirer la protection d'un truc, elle s'est cassée les dents, il ne voulait pas lui faire mal. Elle souffre. Et lui, il a un moral parce qu'il se sent coupable. La souffrance, ça découle plus généralement de la nature de l'homme. C'est-à-dire que là aussi, c'est quelque chose que nous partageons en commun, ouais, de façon universelle. Nous sommes tous affrontés à la question de la mort. Et notre corps lui-même est soumis à des conditions qui font que, un jour ou l'autre, nous sommes appelés à souffrir physiquement. Notre exposition à la mort nous conduit à la souffrance. Voilà, les articulations, etc., ça nous rappelle à cela. Et vous voyez, ce qui est étonnant, c'est que là, avec le corps qui s'use, on est vraiment face à un spectacle sans auteur. Et c'est ça qui est intéressant pour la question du pardon, c'est qu'il y a là le début d'un mal sans auteur, sans coupable finalement. Et ça va être compliqué ça pour la question du pardon. Et ça va peut-être aussi salutaire. Et puis après, il y a le mal métaphysique. Ça, c'est, disons, l'imperfection générale de l'existence. C'est que le monde ne tourne pas rond, et puis de ce qu'on nous dit. Voilà, c'est qu'on a tout à notre disposition pour que tout aille bien en termes de justice, d'alimentation, d'hygiène. Et pourtant, on voit bien que ce n'est pas le cas, etc. Et Et donc, face à ces trois mots, les hommes vont essayer de trouver les coupables, parce qu'en général, quand on trouve les coupables, eh bien, on arrive à arrêter les processus. Et donc, on a évidemment comme coupable Dieu, qui a été le premier à être conduit au tribunal. Dieu comme source du mal, c'est en fait ce que dit la mythologie grecque, hein. C'est-à-dire que tout ce qui arrive trouve son origine en Dieu. Dieu comme grand horloger, c'est quelque chose qui dit cela aussi. Ou alors, comme je vous le disais, on a pu aussi imaginer un Dieu à côté de Dieu, un Dieu qui est la cause de ce désordre. Bon, toujours est-il que Dieu peut être l'un des personnages appelés au barreau. L'autre, évidemment, c'est l'homme. Et là, ça rejoint la question de la liberté, justement. Parce que la liberté humaine est mise en procès, en fait, dans cette question du mal. Si l'homme est libre, alors c'est-à-dire qu'il est aussi libre de faire le mal. Et donc, s'il y a du mal, c'est a priori parce que l'homme en est la cause. La question, c'est de savoir si l'homme est vraiment capable de faire tout le mal qu'il y a. Il y a tellement de choses qui ne vont pas, on se demande si l'homme est vraiment à la hauteur de ce mal. On peut se dire que non, certainement, il doit y avoir une cause externe. Mais il y a aussi la question de la liberté, avec ce que Dieu en fait. Si Dieu est acteur de notre liberté, au fond, si Dieu veut que nous soyons libres, et après tout, c'est quand même notre confession de foi, Dieu qui libère le peuple d'Égypte, de la maison de servitude, pour le rendre libre, Dieu qui donne 10 paroles, les 10 commandements, pour que le peuple reste libre. Que veut Dieu? Que nous soyons libres. Si on est libre aussi de faire le mal, ça veut dire que Dieu veut aussi que nous fassions le mal. C'est-à-dire que Dieu est responsable du mal en dernier recours. C'est Pierre Bayle qui dit cela. Si Dieu a prévu le péché d'Adam et qu'il n'ait pas pris de mesures très certaines pour le détourner, il manque de bonne volonté pour l'homme. Si Dieu est comme cela, dans une sorte de vision de l'histoire et qu'il ne fait rien pour empêcher que l'homme commette le mal, ça veut dire qu'il n'est pas bienveillant. Je continue la citation. S'il a fait tout ce qu'il a pu pour empêcher la chute de l'homme et qu'il n'ait pas pu en venir à bout, il n'est donc pas tout-puissant comme nous le supposions. Fin de citation. C'est-à-dire que dans la logique de Pierre Bayle, qui sera retenue ensuite par bien des protestants, le mal désigne justement la non-toute-puissance de Dieu. Si Dieu, au fond, c'est ce que dit Paul Ricoeur dans son étude sur le mal. On a deux éléments qui peuvent être contradictoires. Un Dieu amour et un Dieu tout-puissant. Si Dieu est amour, comment est-ce qu'il accepte le mal? Et même, comment est-ce qu'il peut en être l'auteur, dans une certaine mesure, en tout cas responsable? Et s'il est tout-puissant, comment se fait-il qu'il ne fasse rien contre? Donc après, vous retenez ce que vous voulez. Soit vous voulez absolument un Dieu tout-puissant, dans ce cas-là, il faut supprimer le Dieu amour, ou alors c'est un amour très perverse. Soit vous voulez le Dieu amour, et dans ce cas-là, Dieu n'est pas tout-puissant. Pour les inconditionnels de Wilfred Monod, Wilfred Monod avait fait le choix du Dieu amour contre le Dieu tout-puissant. Disant même que le Dieu faible, c'est celui qui parle à son cœur. Je vous invite à relire ce passage de « Aux croyants et aux athées », c'est magnifique. Bien. Troisième acteur de ce procès, si ce n'est pas forcément Dieu, si ce n'est pas forcément l'homme en toute chose, ça peut être aussi la finitude, celle dont je vous parlais tout à l'heure. Avec cette finitude, donc le fait que notre monde ne peut pas être complètement parfait, enfin, je veux dire, c'est pas encore le royaume, c'est pas le paradis, évidemment. Il y a des grains de sable dans les rouages, il y a des choses qui ne vont pas. Mais ça a pu être aussi théorisé d'une manière tout à fait étonnante, notamment par Peter Sloterdijk, qui dit ceci. Il y a de la nature criminelle. Il y a de la nature criminelle. Il y en a qui sont sur Terre pour être des criminels, comme il y en a qui sont sur Terre pour être des imbéciles, comme il y en a qui sont sur Terre pour être des égoïstes, de la même manière qu'il y a des vaches, des rois et des étoiles, et des arbres. Et au fond, chaque chose a sa place. Voilà. Et du coup, le mal fait partie du monde. Il n'y a pas plus à s'en émouvoir que cela. Voilà, c'est comme ça fait partie de notre ordinaire. C'est lié à la structure. C'est la finitude qui nous renvoie à cela. Alors, vous voyez, ça, je dirais, c'est le discours académique, c'est le discours universitaire. On essaie de théoriser sur la question du mal. Eh bien, moi, je vous propose, avec les textes bibliques, une autre approche du mal. Tout d'abord, avec cette citation de Jürgen Moltmann dans « Le Dieu crucifié ». Jésus a souffert et il est mort dans la solitude. Mais les disciples souffrent et meurent en communion avec lui. En dépit de toutes les similitudes, il s'agit de quelque chose de différent. Le Christ éprouve sur la croix un enfer de rejet et de solitude que les croyants ne devront plus subir. Comme précurseur, il ouvre la voie. Le Christ éprouve mort et enfer dans la solitude. Celui qui le suit, c'est nous, les éprouve en communion avec lui. Autre citation, cette fois de Elie Wiesel. Je ne crois pas que Job, le personnage biblique, ait cru un seul instant à ce qu'il disait. C'est quand il se révolte contre Dieu, etc. Ses propos relèvent du délire poétique, exprimant un état hallucinatoire, mais ne constituent en aucune sorte une doctrine psychologique ou morale qui, elle, serait totalement inacceptable. Il termine ainsi, « Il ne devrait pas parler de la mort dans des termes aussi attachants. » Bon. Eh bien, voyez, entre ces deux citations, il y a une sorte d'abîme. Et ce que j'aimerais vous montrer, et c'est un peu le propos de Paul Ricoeur et de Lita Basset, notamment Lita Basset, c'est de remettre en question le propos d'Elie Wiesel, quand il dit « Job ne devrait pas parler de la mort en des termes aussi attachants. » Contre Augustin, je crois qu'il faut dire que le mal n'est pas ce qui ne devrait pas être, mais qu'il faut dire que c'est ce qui est. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être dans cette phase de déni. Le texte biblique, justement, et Job en particulier, nous dit « Le mal, ce n'est pas ce qui ne devrait pas être, c'est ce qui est. Et mal, ce qui fait mal. » Et même si ça bouleverse notre système de valeurs, si on aimerait une sorte de détachement, eh bien, c'est en fait au niveau des sentiments que les choses se jouent. Et c'est assez étonnant que Paul Ricoeur lui-même, quand même, intellectuel parmi les intellectuels, commence par là. C'est essentiellement dans un sentiment que se donne l'expérience de la faute. Et donc, voilà pourquoi j'ai choisi ce texte biblique. Parce que ce n'est pas une théorisation, mais c'est quelque chose qui dit juste, à mon avis. Donc, je vous propose qu'on commence par lire ce texte biblique qui va vraiment parler du mal reçu, du mal subi, et non pas du mal commis. Voilà. Et la révolution copernicienne, elle est là. Le mal, ce n'est pas en termes de mal commis, en termes de faute, mais en termes de mal reçu qu'il faudrait en parler. Je vous fais passer deux feuilles, vous en prenez une chacun. Il y a sur la colonne de gauche le texte massorétique, c'est le texte hébreu. Sur la colonne de droite, il y a la traduction Louis II. Et puis la petite feuille que je vous fais passer, c'est une traduction plus littérale, pas très littéraire mais littérale, de Lita Basset. Voilà. Et on va lire une traduction littéraire pour que ce soit plus agréable à l'oreille. Mais je vous encourage peut-être à avoir un œil sur la traduction de Lita Basset parce qu'elle est bien plus proche du texte, bien plus juste, bien plus fidèle et donc bien plus intéressante. Voilà, peut-être que si on pouvait partager un peu la lecture, que les uns les autres lisent quelques passages, soit sur le texte que je vous ai passé, soit dans votre propre Bible, dans la traduction qui vous intéresse. À partir donc du verset 13 du chapitre 52. Sur celle-ci, là? Parce que c'est littéraire, c'est plus agréable. Oui, d'accord.
Voici mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, et il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables.
Voilà. Bon, on commence un peu par vos sentiments sur ce texte.
Je veux dire une chose. On lit souvent ce texte d'une façon prophétique, comme une vision à mille ans de distance de Jésus. Mm-hmm. Et moi, je ne peux pas croire que ce texte était écrit pour prédire quelque chose qui arriverait serviteur 1000 ans après. Ça a été écrit pour le peuple qui était avec Jérémie. Et alors, j'aimerais bien connaître...
Avec Ésaïe, oui.
Avec Ésaïe, pardon. J'aimerais bien connaître le contexte, les circonstances.
Les Juifs, d'ailleurs, pensent que le serviteur, c'est Dieu.
Alors, donc, effectivement, c'est ce qu'on appelle le texte du serviteur souffrant. Voilà. Comme le disait François, c'est souvent utilisé dans la lecture du temps pascal en rapport avec la question de la croix. D'ailleurs, on a même un cantique, c'est « Au douloureux visage », etc., un choral de Bach. Et moi, je suis assez d'accord avec François, c'est-à-dire que ça n'a pas été écrit à la lettre près en prévision de l'événement Jésus de Nazareth. Mais, en revanche, ce n'est pas la question des 600 ans ou des 1000 ans de distance qui me pose problème. Parce qu'à mon avis, ce texte est écrit pour nous aussi, aujourd'hui. Donc ça fonctionne. Mais la situation est la suivante. Je vous refais l'histoire d'Israël en très peu de temps, depuis la sortie d'Égypte. Alors, donc, sortie d'Égypte, traversée du désert pendant 40 ans, installation en terre promise, l'installation K1KA, on s'organise, on essaie de trouver des solutions pour la justice, pour le gouvernement. Finalement, tout le monde opte pour la monarchie. Le premier roi, le premier messie, Saül, puis David, Salomon. Ensuite, guerre de succession, schisme. Royaume du Nord, royaume du Sud. Au Nord, capitale Samarie. Au Sud, capitale Jérusalem. Tiraillement, opposition. Peut-être deux religions, peut-être deux cultes. En tout cas, de vives oppositions qui continueront encore au temps de Jésus. Les Samaritains, ce sont ceux du royaume du Nord, qui sont un peu des faux frères pour ceux du royaume du Sud, la Judée. Schisme, et puis autour, des empires énormes. Assyrie, puis Babylone, l'Égypte, bien sûr, les peuples de la mer, les Phéniciens, et puis tout un tas de populations environnantes. Et Israël, ces deux petits royaumes de rien du tout, ces rois clés au milieu, qui sont pris entre tous ces empires, et qui tantôt essaient de contracter des alliances, tantôt essaient de faire valoir quelque chose qui serait de l'ordre du nationalisme pour fédérer le peuple. Le royaume du Nord qui chute en 722, Samarie, et le royaume du Sud qui chute et sera déporté en 587. C'est à ce moment-là que le prophétisme bat son plein. Avant que, disons que les premiers prophètes, c'est le moment où il y a le problème avec les royaumes du Nord, Amos par exemple, Osée en particulier. Ensuite, quand il y aura la chute de Samarie, eh bien, les prophètes du Sud vont s'activer encore plus. Ésaïe, c'est un livre qui est en plusieurs parties. On considère qu'il y a trois étapes dans la rédaction d'Ésaïe. Et la première partie du prophétisme, c'est de dire « Attention, méfiez-vous des alliances, méfiez-vous en particulier de l'Égypte. Et ne voyez pas Babylone d'un trop mauvais œil. Il semble que le pouvoir royal ne tienne pas compte de cela et que ce qu'on en tire, c'est qu'ils sont punis par là où ils ont péché. Ils n'ont pas voulu de Babylone. C'est Babylone qui aura raison d'eux. » Donc, la mise à sac provoque la déportation. Là, c'est Ézéchiel qui parle. Ézéchiel est l'un des rares à écrire au sein de la déportation. Et puis ensuite, au-delà de cette déportation, eh bien, Babylone un jour va s'écrouler. Ce sont les Perses qui vont prendre le pouvoir. Et donc, il y aura un retour envisagé du peuple hébreu sur sa terre avec un problème. Quel est le véritable Israël ? Est-ce celui qui est resté à Jérusalem ou celui qui a été déporté à Babylone ? Donc là, il va y avoir au sein du prophétisme tout un travail pour savoir quel est le peuple fidèle, en quelque sorte. Et Ésaïe 52 réfléchit au retour, justement. Enfin, en fait, cette partie d'Ésaïe réfléchit au retour comme un nouvel exode. Hein ? Toute cette partie d'Ésaïe envisage la sortie de Babylone comme un nouvel exode. Et le serviteur souffrant, ici, c'est a priori Israël, bien sûr, on peut le comprendre comme cela, parce que c'est Paris outragé, c'est Paris blessé, c'est Paris martyrisé, mais Paris libéré par elle-même, etc. Et bien on pourrait dire pareil ici. C'est-à-dire qu'on a le serviteur brisé, mais au fond, c'est le serviteur. Et c'est un peu le mythe gaulien de la France éternelle, qui n'était pas à Vichy, mais qui était à Londres, et bien là, c'est pareil. L'Israël n'était pas à Jérusalem, il était à Babylone. Vous voyez ? Il y a comme ça une sorte de construction, une mythologie qui va permettre de refédérer le peuple au moment de la reconstruction de Jérusalem et du retour. Et donc, on aura chez Ézéchiel la vallée des ossements desséchés, qui évoque un peu ça, c'est-à-dire une recréation. Et bien ici, on a une recréation. Et vous savez que la grande question, notamment de Jérémie, puisqu'on appelle la couche deutéronomiste, ce qui est voilà, une partie de la rédaction de l'Ancien Testament, c'est de savoir comment est-ce qu'on en est arrivé là. Comment est-ce que Israël a pu être laminé comme ça, le temple détruit, l'arche d'alliance perdue, etc. Et au fond, c'est la question de la faute. C'est la culpabilité. Est-ce que on n'aurait pas trop abandonné Dieu ? Est-ce qu'on n'aurait pas été trop infidèle ? Est-ce qu'on n'aurait pas fait n'importe quoi ? Est-ce qu'on n'aurait pas été payé pour nos actes, en quelque sorte ? Et donc, ici, c'est la question du pardon, déjà, qui est un peu assumée, et avec la question de comment va-t-on gérer le mal ? Et le mal qu'on nous a fait, qu'est-ce qu'on va en faire ? Est-ce qu'on va rentrer dans une logique de la vengeance ? Est-ce que maintenant qu'on est restauré grâce à Cyrus et l'édit de Cyrus, on va repartir en guerre contre les autres ? Est-ce que les victimes vont devenir bourreaux ? Ou est-ce que notre foi nous invite à repenser notre nouvelle condition et peut-être à proposer une alternative ? Pour le background, ça va ? Bon sentiment sur ce texte. Je ne vous demande pas tout de suite les commentaires, les superbes perles théologiques que vous pouvez trouver, mais voilà, comment est-ce que le texte résonne, ce que vous en pensez, même sur le plan formel, ce qui vous agace, ce qui vous plaît, ce qui vous intéresse, ce que vous trouvez curieux ? Là où ça vous titille. Ça vous exaspère?
Moi, je trouve ça assez bouleversant, le texte. Mm-hmm.
Donc, c'est vraiment au niveau du ressenti, là. Hein. Ouais. Un texte qui, justement, travaille bien sur ce que je vous disais, la question du sentiment, le mal subi.
Pour moi, il y a comme une contradiction qui va peut-être falloir, qui est peut-être le sujet de cette réflexion, hein, c'est que c'est vrai que de porter les sentiments, ça apporte une souffrance, mais enfin, je ne sais pas où est la question de la responsabilité individuelle. Est-ce qu'on a apporté quelque chose pour les autres? On a à se sentir concerné, hein? Mais est-ce qu'on peut se substituer à la responsabilité des autres?
Tout à fait. La question de la substitution est absolument assumée par ce texte. Enfin, je veux dire, la question, je n'ai pas dit qu'il faut aller se substituer ou quoi, mais elle est tout à fait traitée à un moment donné, oui. Et puis, de toute façon, le texte dit bien, il a porté nos fautes. Bon, il faudra qu'on voit aussi avec la traduction de Lita Basset, qui est beaucoup plus proche, beaucoup plus intéressante, beaucoup plus juste. Et, sur le plan formel, ce texte, vous le trouvez agréable, lourd, enlevé, intéressant? Vous n'avez pas d'avis? Okay. Ça ne vous semble pas un texte biblique, peut-être?
Oui.
Ah, c'est ça. Hein.
Je trouve que ça magnifie beaucoup la souffrance.
Ça magnifie la souffrance.
Ça magnifie la souffrance.
Ça la rend attachante. C'est un peu ce que disait Elie Wiesel. Il ne faudrait pas que Job parle du mal en ces termes, ça le rend trop attachant, trop agréable. Ça confine.
Non. Est-ce que c'est pas vertueux de souffrir?
C'est ça. Le risque, que ça soit une sorte d'encouragement au masochisme, c'est-à-dire que on va avoir une rédemption par la souffrance.
Oui, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Moi, je me demande pourquoi ça, c'est nécessaire.
Voilà.
Pourquoi faut-il d'emblée qu'il soit un rejeton pour se charger de la souffrance du monde? Ça manque un peu d'éclat.
D'ailleurs, il est sans éclat même.
Voilà.
C'est carrément à ce point-là. Au verset 2, c'est ni éclat pour attirer nos regards. Voilà. Ah, vous avez raison.
C'est
doloriste au maximum. Il manque que la couronne d'épines. Hein.
Oh là là.
Les clous.
C'est vrai que c'est quelque chose d'aussi très humain. Les personnes qui ont traversé une souffrance absolument énorme, quand elle retrouve une autre sorte de vie, c'est quelquefois du mal à faire le mot n'est pas exact, mais elles ont quelquefois. C'est pas évident de passer d'un état de grande souffrance à un état où on se sent guéri, contrairement à ce qu'on pourrait penser de l'extérieur. Les gens, il n'y a pas obligatoirement de se complaire dans la souffrance. Il y a quelquefois le fait que. Actuellement, il y a des otages que, à un moment, la souffrance a été la seule façon d'exister. C'est pas obligatoirement qu'on veut s'y complaire, mais comment on va exister autrement que par la souffrance?
Alors,
c'est un texte plein d'espérance.
Je le pense, mais c'est vrai que ça ne saute pas aux yeux, à vrai dire. On a l'impression que c'est tout l'inverse. On a l'impression qu'il n'y a rien de plus évangélique que de plonger au cœur de l'abîme. Hein, c'est-à-dire, et à la limite, il vaudrait peut-être mieux éviter d'appeler Dieu du fond des ténèbres ou du fond de l'abîme, parce qu'il pourrait nous retirer de là alors qu'on y est si bien. Il y a un poème de Paul Celan qui est terrible, c'est la fugue de la mort de Sfugue, qui dit « La mort, on y est serré, on s'y sent bien ». C'est un poème terrible sur les camps de la mort, mais il y a une sorte de fascination aussi. Et c'est vrai que ce texte pourrait conduire à une sorte de fascination de la mort. Hein. Et avec vous, je suis d'accord pour dire que c'est là un risque qu'il faut veiller à ne pas courir. Et on va essayer de voir de quelle manière il y a effectivement une espérance qui germe. Alors, voilà, ce qui est important, c'est de dire que ce qui est dit là est quelque chose qui peut être expérimenté, enfin, je veux dire, qui peut être vécu de l'intérieur. Avoir le sentiment d'être sans éclat, sans visage, sans nom, en fait, de ne plus avoir d'existence, d'être écrabouillé, je veux dire, n'importe quelle personne dépressive le ressent, et puis même des gens qui sont exclus peuvent le sentir aussi. Au fond, c'est ce qu'on sent après une déception amoureuse aussi, après une rupture. On peut avoir l'impression que tout s'écroule. ou que, enfin, non, c'est même pas que tout s'écroule, c'est qu'on n'existe plus, qu'il n'y a plus de raison de vivre. Voilà. Il y a plein de situations où l'expression est possible. Et alors, ce texte est construit d'une manière, finalement, oui, c'est ça, assez doloriste. J'ai pris la peine de mettre un petit stabilo-boss sur mon texte, avec tous les mots qui sont répétés. En jaune, c'est les mots qui sont répétés deux fois, et en rouge, ceux qui sont répétés trois, quatre fois. Et au fond, on sent qu'il y a la meule qui tourne et qui écrase tout, là, et qui remet une couche, et si ça suffit pas, hop, on... Voilà. C'est vrai que le texte, formellement, veille à bien broyer le lecteur. C'est-à-dire qu'il dit, il fait ce qu'il décrit, oui.
J'ai l'impression qu'il y a une rétribution quand même de la douleur et de la souffrance. Et je le vois à 53, 12.
Oui.
On dit, c'est pourquoi je lui donnerai beaucoup en partage. Il partagera le butin avec les puissants.
Oui.
Donc, il va quand même récolter quelque chose parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les coupables. Donc, on tient compte des faits, enfin, de sa souffrance, de tout ça. Il y a quand même au bout de ce chemin de désolation une récompense, en quelque sorte.
Et donc,
il partage le butin avec les puissants. Et Dieu sait si les puissants sont unis dans cette affaire, qu'on nous dit que son sépulcre sera avec le riche. Alors, on peut aussi discuter de savoir pourquoi tant de mauvaise considération que le texte donne du riche. Qu'est-ce que c'est que le riche?
Absolument.
Voilà le problème.
Ouais. Alors, il va falloir là qu'on commence aussi à regarder un peu plus le texte dans sa littéralité. Vous savez, Ésaïe, ça fait partie un peu des textes poétiques, c'est extrêmement compliqué à traduire. Donc, il faut être très vigilant quand on lit les psaumes, il faut être très vigilant quand on lit Ésaïe, parce que les traductions sont très compliquées à faire. Et c'est pour ça que je vous ai mis la traduction française de l'Itabassé, parce que, justement, on va voir que sur cet aspect-là, elle apporte un éclairage qui est tout à fait décisif. Et que justement le verset 9 sur la question du tombeau avec les méchants et avec les riches est là tout à fait décisif aussi. Alors peut-être qu'on va commencer par là d'ailleurs, comme ça on prend les choses les plus importantes et puis on verra après le reste. Je vous ai dit qu'aujourd'hui c'était une séance consacrée au mal. Bon, il y a un endroit où on parle du mal, en l'occurrence on parle des méchants. C'est le verset 9 et c'est le verset clé. Au fond c'est la clé de compréhension de tout le reste. Il y a là quelque chose d'unique. C'est la seule fois où il est question des méchants dans le texte. Sinon, c'est que la souffrance subie en quelque sorte. Eh bien, c'est aussi la seule fois où on va le voir, le serviteur agit librement. Il n'est pas en train de subir quelque chose, il fait quelque chose. Et c'est là que la traduction de Louis II est limite. La traduction, c'est « on a mis son sépulcre parmi les méchants ». Il a établi son sépulcre. C'est lui qui a établi son sépulcre parmi les méchants et avec les riches. Alors, vous voyez, ça répond tout de suite à votre question. On a l'impression que finalement, ça rajoute une couche au dolorisme. En faisant ça, on obtient une récompense. Mais je reviens un peu justement sur l'arrière-plan que j'ai évoqué. Israël victime. Et après, une fois qu'on a été victime, qu'est-ce qu'on fait? On se venge ou on fait autre chose? Là, la première étape, vous voyez, ça va être de partager le sort du bourreau. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans une logique du donnant-donnant, tu m'as donné la douleur, je vais te la rendre, et en y ajoutant ma part, là, c'est plutôt partager le sort. Au fond, et ce qui est intéressant, c'est que là où il y a un acte de liberté de ce serviteur souffrant, c'est un acte de non-violence. Vous voyez, il y a de la violence partout. C'est inouï. Hein, ça, comme tu le dis, c'est bouleversant de souffrance et d'agression. Eh bien, au moment où il a la possibilité de faire quelque chose, justement, il y a cette spirale vicieuse qui est rompue, et l'acte qu'il pose, c'est un acte de non-violence. C'est quasiment de la communion. Vous voyez ? Il installe son tombeau parmi les méchants et les riches. Il faut bien comprendre que ça n'existe pas. Je veux dire, ça n'existe pas, c'est contraire à la morale. En judaïsme, dans le peuple hébreu, on est enterré avec ses pères. Sinon, c'est la fin. Eh bien là, ce qui est magnifique, c'est un point de vue personnel, c'est un jugement de valeur, il ne faudrait pas, mais tant pis. Hein. Ce qui est magnifique, c'est que justement, il rompt cette loi clanique, il rompt cette habitude et cette tradition, et il y a là quelque chose de profondément évangélique. C'est-à-dire qu'il y a une transgression qui, en fait, est un acte de grâce. Il va partager le tombeau des méchants et des riches. Vous voyez, une transgression dans la mort qui va permettre l'accès à la vie. Et ce qu'il fait, ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre du dolorisme. C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'instauration d'une fraternité. Un jour, je vous ferai une prédication de Vendredi Saint pour vous tirer les larmes du corps, mais je peux déjà vous en dévoiler un coup, mais comme ça tombe jamais bien, je pense que je la ferai pas, la prédication de Vendredi Saint, avant des années, de toute façon. Alors. C'est le discours d'André Malraux pour l'entrée de Jean Moulin au Panthéon. Relisez le passage, ou écoutez-le, parce que de toute façon, ça vaut le coup d'écouter avec le vent de ça. Quand il raconte la première fois où il a rencontré la résistance, c'est en Corrèze. Des représailles, l'armée allemande qui fusille des Français parce qu'il y a eu un attentat ou quelque chose comme ça, et c'était des Bretons, on est Normands, et on est en pleine Corrèze. Et donc, pour qu'il n'y ait pas d'émeute, etc., les Allemands décident d'enterrer ces résistants français. Au petit matin, dans l'anonymat le plus grand. Ouais. Et Malraux raconte qu'il y a une tradition en Corrèze, c'est que les femmes, au moment des obsèques, sont sur la tombe de leurs anciens. Quand on enterre quelqu'un, on ne se rend pas au cimetière, on va sur la tombe de ses anciens. Et donc, ce que Malraux voit de ses yeux vus, c'est qu'au moment où, comme ça, de façon tout à fait clandestine, les Allemands vont enterrer ceux qu'ils ont fusillés à l'aube, et ben, toutes les femmes sont là sur leur tombeau personnel, en fait. Et vous voyez, il y a une sorte de communion dans la mort qui, en fait, est le lieu où il y a quelque chose de la fraternité qui va l'emporter sur la violence d'État, sur la vengeance, en fait. Et bien là, il y a quelque chose qui est aussi de cet ordre-là. C'est-à-dire que il y a une transgression. Voilà, il y a une transgression, et cette transgression, bah, c'est un peu ce que dit le Cantique des Cantiques. C'est quand l'amour est fort comme la mort, et que même, au fond, on ne peut pas éteindre les flammes de l'amour. Et ça, ce n'est pas du dolorisme, vous voyez.
C'est un sacré contresens, alors, dans les
traductions. Il y a une sérieuse ambiguïté, oui. Et on va voir que ça va être encore pire sur d'autres aspects après.
Attendez,
juste.
Ce verset nous ramène en pleine actualité.
Ben ouais, c'est en pleine actualité, c'est pour chacun de nous, quoi, je veux dire. C'est vous aussi qui êtes là. Est-ce que vous décidez de mettre votre sépulture avec les méchants, ou est-ce que vous décidez de prendre l'épée à double tranchant et de retourner la lame contre l'ennemi?
Mais même si on n'est pas du côté du bien, et puis on ne peut pas s'empêcher d'être conscient de la promesse.
Oui.
De l'espérance, surtout.
Sauf qu'on peut aussi vivre sans. Enfin, je veux dire, il y a aussi la possibilité de faire autrement. Ouais, c'est là où la liberté est assez terrible. Et donc, vous voyez, ce que dit ce texte, c'est que le serviteur... Au fond, il faut bien entendre à quel point dans tout ce texte, on entend que le serviteur assume le mal, il le subit, il l'assume, sans le reproduire. Sans le nier, et sans le minimiser. Et au fond, c'est ça la leçon. C'est qu'il ne minimise pas le mal subi, il ne le nie pas. Il n'est pas dans une sorte de, vous voyez, de vertu où « mais non, tout va bien, comment allez-vous ?»« Mais tout va bien, pas de problème, sourire Colgate. » Il n'y a jamais de problème. Ben, bien sûr qu'il y a des problèmes. Et alors, je veux dire, la vie, très bien, c'est ce qu'on disait tout à l'heure de la finitude. Bien sûr qu'il y a des problèmes, bien sûr qu'il y a du malheur. Bon, la question est de savoir si ça nous étouffe et si on en meurt, ou au contraire si on le transfigure. Et bien là, il y a une transfiguration.
Une chose qui me gêne, c'est oui d'associer les méchants et les riches.
Ah oui. Oui, je comprends. Oui, oui, non, mais ouais, bien sûr. C'était la question tout à l'heure, il faudrait peut-être s'entendre sur ce que sont les riches. Absolument. Oui, tout à fait, parce qu'il ne faudrait pas considérer que dans les textes bibliques, que le riche est forcément un méchant. D'ailleurs, pour bien vous le faire comprendre, l'opulence, la richesse, c'est même plutôt un signe de grâce, en fait. En hébreu, la gloire, c'est la lourdeur. Pourquoi ? Parce que quand on est lourd de bien, bah, ça veut dire que voilà, on a reçu sa vie, quoi. C'est plutôt un signe de réussite.
Dans la traduction de Lucas Basset,
oui,
c'est pas, ça, on ne ressent pas tout à fait ce que dit Jean-Paul. Il a établi son sépulcre avec les méchants et avec les riches. Mmh. Donc il n'y a pas l'opposition entre méchants et riches.
Enfin, disons qu'il n'y a pas d'assimilation.
Il n'y a pas d'assimilation.
Non, c'est vrai. Mais on peut se demander pourquoi il y a ce couple-là, effectivement. Oui, oui. Ah, oui. Mais... Absolument. Non, mais ça, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Il n'y a pas de lien de cause à effet entre la richesse et la méchanceté. On peut même se faire des amis avec des biens acquis injustement.
Oui.
Nous dit l'Évangile. Absolument.
Et quand il met parce qu'il a fait non-violence, ça veut dire qu'il renonce à la vengeance.
Oui.
Hein, c'est ça.
Oui. Oui. C'est une option possible. C'est une option possible. Et au fond, sa force morale, c'est de refuser ce chantage-là. C'est la prédication de Jésus, à vrai dire. C'est pas un prêté pour un rendu. Ouais, oui. Et c'est ça, en fait, qui va être l'élément déclencheur. Et je vous le disais à l'occasion, c'est exactement le mouvement des droits civiques organisé par Martin Luther King. Une résistance non violente qui permet de changer les consciences. Là où la réponse violente ne fait qu'encourager une violence plus forte. De toute façon, c'est un secret pour personne, mais le conflit israélo-palestinien. Je veux dire, c'est en permanence les extrémistes qui remettent un peu d'huile sur le feu. Comme ça, ça justifie dans le camp adverse le fait qu'il faut prendre des mesures encore plus dures, puisque vous voyez qu'on est face à des terroristes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, le camp de ceux qui envisagent une résolution pacifique, eh ben, se fait toujours déborder par ceux qui sont dans une logique de la violence et de la vengeance. Et c'est une logique qui, bien sûr, ne marche pas. Je veux dire, essayons d'éliminer le Hamas avec toute la violence qu'on veut, ça repousse. Hein. Bon. Voilà pour l'un des éléments. Vous aviez aussi la question du verset 12, c'est à la fin, avec l'histoire du butin. Voyez comme la deuxième partie est un petit peu différente. Ce n'est pas tout à fait parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, parce que ça, c'est un truc que moi, je ne supporte pas trop. C'est cette idée selon laquelle c'est beau, bon et utile de mourir pour les autres. Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres, pas de donner sa mort. La traduction, puisqu'il a dénudé sa vie jusqu'à la mort. Et au fond, voilà, là il y a l'idée de tout le texte. À la fois quand je vous dis qu'il n'y a pas de déni, ni d'atténuation, ni de minimisation de la violence, au fond, il y a la question de, oui, de la nudité, de la mise en évidence de la fragilité. Et au fond, la fragilité, c'est souvent ce qui déclenche une réaction positive bien plus puissante qu'une sorte de démonstration de force. Autre exemple, Tiananmen, révolte des étudiants, je ne sais plus quand, en Chine. Vous vous souvenez, il y a cette colonne de chars sur la place Tiananmen. Et il y a un pauvre Pékin qui est là, en face, qui se tient avec rien, même pas une barre de métal, et qui arrête la colonne de chars, qui la fait dévier, qui l'arrête. Bon. Il n'est pas impossible que quelques semaines plus tard, sa famille ait reçu la facture pour la balle qu'on lui a mise entre les deux oreilles. Il n'empêche qu'il s'est passé quelque chose et que ça a fait le tour du monde, une prise de conscience. Et en tous les cas, celui qui pilotait le char, eh ben, il n'est pas resté indemne face à cette situation. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience. La fragilité est souvent bien plus puissante parce qu'elle désarme, en fait. Elle désarme.
La traduction du tape à celle-là.
Oui.
Puisqu'il a dénudé sa vie jusqu'à la mort, c'est un peu aussi la réflexion, la thématique de la réflexion des moines de Tibérine.
Oui.
On veut le film.
Absolument. Et justement, si on prend cet exemple des moines de Tibérine, si on prend cet exemple-là, ce qui est intéressant, c'est quoi ? C'est de voir que si on est dans cette fragilité, que donc on n'a pas les armes dans la main, eh ben on a les mains disponibles pour autre chose que la violence. Ça veut dire que comme les moines de Tibérine, pendant qu'ils ne fuyaient pas ou qu'ils n'essayaient pas d'organiser une défense militaire, eh ben ils avaient le temps pour éduquer, pour aider, pour soigner, pour encourager, pour être là, pour être présent. Voilà. Forcément, quand on est dans une logique de la violence, on n'a pas le temps pour autre chose. Ouais, je vous le dis de façon très prosaïque, mais en fait, ce texte nous dit cela aussi. La fragilité de Dieu, elle sert à quoi ? Enfin, elle sert à quoi ? Elle sert à rien, elle est comme ça, on sait tout. Quand on confesse, on n'est pas obligé d'adhérer à ce qu'on confesse, nous les pasteurs de l'oratoire, hein. Un Dieu qui n'est pas tout-puissant, eh bien, ça veut dire que, n'étant pas tout-puissant, il peut donner toute sa mesure pour l'amour. Et donc, il a, je veux dire, plus de temps pour aimer. Excusez-moi cet anthropomorphisme. Mais il dit quelque chose. Voyez, pendant qu'il n'est pas là à fouetter ceux qui auraient mal fait, eh ben il est là à éduquer et à aider les gens à progresser.
C'est la résurrection malgré le mal.
Ouais, ouais, absolument. Ah oui, c'est sûr. Absolument. C'est le côté les bons malgré nous, là.
Oui.
Absolument. Ce texte est intéressant quand même en relation avec l'épisode de Jésus de Nazareth, parce que ça nous permet de comprendre ce qui peut se jouer dans cet épisode de la croix du Vendredi Saint. Ça permet d'expliquer aussi ce déferlement de violence. Vous savez, ces humiliations que Jésus a subies, la foule qui se moque de lui, bien sûr, mais aussi les soldats qui le frappent, qui lui disent « Ah bah c'était le Messie, devine qui t'a frappé », etc. Enfin bon... C'est Klaus Westermann, qui est un exégète allemand, qui dit « La douleur est toujours accompagnée du mépris et du rejet. » Parce qu'au fond, c'est symptomatique, mais je ne vous le dis pas de façon négative, c'est symptomatique, vous avez dit. Il y a toujours un mépris et un rejet de la douleur, parce que c'est insupportable. Soit c'est fascinant, parce qu'on est sadique, soit au fond, il y a un rejet. Et c'est tout le problème de la charité chrétienne. C'est que les gens qui vont pas bien, qui sentent pas bon, qui sont pas comme nous, ça nous donne une image qui est pas terrible et on préfère qu'ils soient dans les paroisses d'à côté que chez nous, voyez ? Enfin, je dis pas ça pour nous parce que nous c'est pas le cas et personne. Ah, nous on fonctionne pas comme ça. Certainement pas. Bien. Bon, eh ben, il faudrait pas qu'on fonctionne comme ça, en tout cas, parce que. Ça conduit à une seule chose, c'est l'exclusion de la société des hommes. Et au fond, vous voyez, ici on a déjà, à travers la gestion du mal, la question de la réconciliation et de la réhabilitation. Comment on fait pour réhabiliter le méchant ? Eh bien, on meurt avec lui. Moi, comme ça, on ouvre des fenêtres, comme ça. Le but de ces lectures bibliques, c'est de nous aider à mieux comprendre le réel. La question des carrés musulmans, par exemple. Mais ça peut être des cimetières juifs ou des cimetières protestants. Ça pose quand même un petit problème. Parce que si on n'est pas capable d'être enterré ensemble, je veux dire, comment on va faire pour vivre ensemble ?
Pourquoi on s'acharne sur ces histoires d'enterrement et de cimetière ?
Mais c'est-à-dire que ça peut être symptomatique à rebours d'une incapacité ou d'une non-volonté de vivre ensemble. Ça dit quelque chose quand même. Hein ? Ne pas être ensemble dans la terre. Et voilà, et à Nîmes, on maintient le cimetière protestant. Bon, en plus, ça rapporte de l'argent, c'est vrai, mais c'est d'autant plus cruel. Et donc, vous voyez, dans la réflexion sur les fameux cimetières avec les carrés, ceci, cela, moi, je suis assez réservé quand même. Hein. Mettre son tombeau avec le méchant, c'est une façon d'apporter la réconciliation. Bah, peut-être que si on s'enterrait aussi avec le commun des mortels, ça ferait réfléchir les vivants.
Les morts ne peuvent pas se battre entre eux, ça, c'est vite terminé.
Si vous le dites, je vous crois. Au verset 3, vous voyez, il y a l'expression « homme de douleur ». Moi, voilà, je retiens cette expression pour ce texte parce que elle exprime ce que ce texte veut dire. Je trouve que c'est tout l'intérêt aussi de ce livre qu'avait écrit Philippe Labro, « Tomber cette fois, se relever 8 », vous savez, sur sa dépression nerveuse. Au fond, on peut dire il fait de l'argent sur sa maladie, sur sa dépression, etc. Peut-être. Il n'empêche qu'il met des mots sur une expérience que beaucoup de gens traversent et n'osent pas avouer, parce que c'est pas très honorable. Ça, on sent bien que ça va attirer le mépris, etc., et le rejet, parce qu'on ne fait plus envie. On est sans éclat, etc. Et au fond, ce texte, c'est peut-être pas la page la plus belle de la Bible sur le plan des beaux rêves que ça va nous produire. Mais en revanche, c'est une belle page parce que ça dit quelque chose de juste sur une expérience communément partagée. C'est un texte qui fait écho aussi à l'un des passages du film de Costa Gavras, Amen. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Il y a un moment où un bon petit protestant allemand qui doit être dans la Wehrmacht, je pense, qui participe aux offices, tout ça. Je crois. Enfin, ça remonte à longtemps, c'est de souvenirs, mais vous me corrigerez. Et qui décide de faire le pas et d'entrer dans la Waffen-SS. Et d'être justement dans les camps d'extermination. Et il a un de ses amis qui ne comprend pas son geste. Et la réponse, pour moi, est assez intéressante. Il dit « Je serai les yeux de Dieu au sein de l'enfer ». Eh bien, en fait, il me semble que c'est ça qui est raconté ici. Et justement, dans ce passage où on se dit mais quelle est la place de Dieu dans tout ça ? Je veux dire, une telle machine à broyer, hein, quelle est la place de Dieu dans tout ça ? Et on a l'impression que Dieu finalement récompense celui qui souffre et que ça peut être vertueux de souffrir. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il y a justement dans la présence de ce serviteur une geste possible de la part de Dieu.
Est-ce qu'on peut avoir l'impression que ce serviteur souffrant est le témoin de Dieu dans la souffrance des autres ?
Alors voilà, ça c'est le premier élément.
Je ne sais pas, c'est une question que je pose.
C'est le premier élément quand je parlais des yeux de Dieu au sein de l'enfer. Témoin. Mais je dirais même plus que cela, c'est qu'il devient Messie en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il devient le lieu tenant de Dieu. C'est-à-dire non pas simplement en tant que témoin, mais en tant qu'agissant. Verset 6, extrêmement problématique. Lisez-le, on va le lire tout d'abord dans la version Louis II. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Donc là, on voit que c'est le chaos. C'est l'enfer. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Là, on se dit victime, bouc émissaire, voilà. On se dit, bah parfait, Jésus, c'est ça, c'est le bouc émissaire. Bon, on va reprendre la traduction de Lita Bassé. Nous tous, comme du petit bétail, nous errons ou nous errions. Donc là, c'est le chaos, pas de problème. Nous nous tournions chacun vers son chemin. Bon. Mais le Seigneur est intervenu en lui ou contre lui concernant le tort de nous tous. Hein? Et effectivement, si vous lisez un peu l'hébreu, c'est bien « bo », donc le préfixe « be » dans, voire « contre », « au lui », dans lui. Il est intervenu dans lui, paga, paga, intervenir, en lui. Alors, il y a plusieurs possibilités. On peut considérer que Dieu rencontre les douleurs chez le serviteur. C'est ça, il y a une sorte de témoignage du serviteur. On peut considérer que Dieu s'en sert de bouc émissaire. Mais on peut aussi considérer que Dieu intervient en lui et donc qu'il agit sur le tort à travers son serviteur. Et que donc son serviteur devient le lieutenant de Dieu, c'est-à-dire le bras armé de Dieu. D'ailleurs, il en est question à un moment donné du bras de Dieu. C'est en ce sens qu'il est Messie. Et c'est pour ça que ce qui arrive à Jésus n'est pas tout à fait le fruit du hasard. Parce que quand on est confronté à la violence, soit on réagit par une violence supérieure, soit on réagit par la fuite, soit on réagit par ce mode-là. Et au fond, il y a une sorte d'analogie entre le serviteur souffrant et Jésus, parce qu'ils sont dans une même logique, ce que j'appelle la logique de l'aïkido. À la fois, on se préserve soi et on préserve l'adversaire. En aïkido, si on blesse l'adversaire, c'est mal. Ça veut dire qu'on n'a pas bien fait la prise. C'est très évangélique, ça. On se préserve soi et on préserve l'autre en même temps. Eh bien, je crois que c'est ça, le verset 6. Vous voyez, c'est pour ça que la traduction, des fois, méfiance. Hein. Le Seigneur est intervenu en lui concernant le tort de nous tous. Au fond, il est acteur de cette rémission possible, cette rédemption. Cette rédemption.
En lui, barre contre lui. Donc ouais. Les deux,
il y a une ambiguïté.
Ouais. Les deux possibilités.
Absolument. Mais ce qu'on ne comprend pas très bien, c'est en quoi il aurait. C'est parce que grammaticalement, les deux sont possibles. Mais après, en général, on fait des choix avec le contexte. C'est-à-dire qu'en fonction du sens des autres mots, on choisit un ou l'autre. Là, elle a eu l'honnêteté de dire ça peut être aussi contre. Moi, je ne vois pas bien en quoi est-ce que Dieu aurait lutté contre le serviteur souffrant pour nos torts, sauf si c'est un Dieu assoiffé de vengeance et de sang. Ce qui a été le cas dans des mouvements du christianisme, de penser qu'il fallait se réconcilier avec Dieu en désaltérant Dieu, en quelque sorte.
Prenons pour une idole.
Alors après, pour moi, ça relève de l'idolâtrie, cette affaire, mais il n'empêche que cette justice rétributive et expiatoire avec Jésus comme le vicaire, en quelque sorte, hein, dont on fait couler le sang pour apaiser le courroux de Dieu. Selon la logique, il vaut mieux qu'un homme meure pour avoir la paix de tout le monde. Je ne pense pas.
Mais s'il vous plaît.
Oui.
Mais ça me dérange un petit peu le verset 10.
Oui.
Quand on dit « Mais Seigneur, il t'a plu de l'écraser, de le rendre malade.
Mmh. »
Si tu places sa vie, ou si sa vie se place en offrande pour les fautes, enfin, cette idée de Dieu qui veut écraser.
Oui, oui.
Enfin, c'est pas vraiment un Dieu d'amour qui se révèle.
Là, effectivement, c'est pas. Non, non, tout à fait. Oui, oui, absolument. Parce que dans ce cas-là, ça relève véritablement du sadisme. Et c'est la raison pour laquelle je trouve important de lire ce verset-là. Justement avec les autres, et les autres retrouvés dans un sens qui me semble plus proche du texte hébreu. Parce que il t'a plu de l'écraser, de le rendre malade, on peut le relier avec cet épisode de l'évangile de Jean, avec l'aveugle de naissance. Les pharisiens sont là, ils demandent aux disciples pourquoi est-ce qu'il est aveugle ? C'est parce qu'il a péché ou est-ce que c'est parce que ses parents ont péché ? Donc la question de la faute. Hein. Et Jésus répond non pas pour cette raison-là, mais afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Alors comment on le comprend de façon générale ? On se dit bon, il était aveugle pour que Jésus le guérisse. Et comme ça, on voit que Dieu était bien derrière Jésus. C'est extrêmement cruel, ça.
Ah oui. Ah oui.
Je pense qu'il faut mieux le comprendre selon la logique que l'on trouve déjà dans le livre de la Genèse, avec l'histoire de Joseph et de ses frères. Joseph qui dit à ses frères, après avoir été malmené, torturé, vendu, presque tué, etc., il se réconcilie à la fin. Et la fin de l'histoire, c'est Joseph qui dit à ses frères, le mal que vous avez voulu me faire, Dieu l'a transformé en bien. Donc, le plaisir de Dieu, n'est pas dans l'humiliation de tel ou tel. Le plaisir de Dieu est dans le fait de pouvoir rejoindre la douleur de tel ou tel et de pouvoir la transformer, de pouvoir la guérir en fait. Qu'est-ce qui plaît à Dieu dans cette histoire ? C'est que ce serviteur souffrant n'ait pas refusé la commensalité, n'ait pas refusé la fratrie. La fratrie humaine, au fond, qu'il ne se soit pas bétonné dans une sorte de sécurité pour éviter son sort, mais qu'il ait partagé le sort des autres, parce que c'est ça qui permet la réconciliation, c'est ça qui permet de remettre un peu d'ordre dans la société. Au fond, le plaisir de Dieu, c'est que, au cœur de cet écrasement, de cette machine impitoyable, il y ait pu y avoir justement cette dynamique positive. S'il n'y avait pas eu Si ces deux fils ne s'étaient pas joints, eh bien, voilà, il y aurait pas eu, on n'a pas pu rattraper l'ensemble en fait. Je comprends que vous soyez encore un petit peu en attente de réponse là. Oui, François.
Il y a quelque chose qu'on peut plus de nos jours lire de la même façon ou accepter.
Oui.
C'est cette notion de sacrifice qui était tellement proche des fondamentales dans ces civilisations de l'époque. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans une civilisation sacrificielle. Le sacrifice n'a pas de sens pour nous aujourd'hui, alors qu'il en avait,
à ce temps-là. Oui, encore, on verra avec le Lévitique qu'il n'avait pas le sens qu'on lui prête de nos jours, et que c'était beaucoup moins sacrificiel tel qu'on l'imagine que disait Texte. Mais effectivement...
Sauf pendant la guerre, mais il y en a... Mais on essaie de, quand même de sortir de cette...
Ah oui. Mais même dans le livre du Lévitique, c'est jamais envisagé comme il vaut mieux tuer l'enfant pour sauver la mère ou l'inverse, ou jeter l'eau du bain et le bébé, ou sauver la baignoire. Enfin, voyez, non. C'est-à-dire que la logique sacrificielle, on en perd un pour sauver l'autre, ça, c'est pas la logique biblique.
On n'est pas non plus dans la civilisation du vaudou, où on tue un poulet, pour, etc.
Non, il n'y a pas ces rites magiques qui fonctionnent dans les textes bibliques non plus.
Mais ça a fonctionné, ça a existé pendant longtemps.
Oui, ça a existé, oui.
Ça marchait.
Parallèlement.
Pour garder la paix entre les groupes humains, parce que sinon, ils se seraient peut-être...
Alors non, oui, enfin oui, vous avez raison, mais non. C'est le rite de l'alliance. Karat berit en hébreu, karat coupé, berit alliance. Le rite de l'alliance, ça vous donne l'impression d'un rite vaudou, mais non. Comment on faisait ? C'est expliqué un peu dans Jérémie, et puis on a une trace dans le livre de la Genèse. Donc on convenait d'un accord, soyons amis par exemple, et on ne se fera jamais la guerre. Et pour sceller l'alliance, on prend un animal, on le coupait en deux, et les deux partenaires passaient au milieu de l'animal découpé. Ça fait super rite vaudou, hein ? Mais en fait, c'est de l'ordre de la métaphore. Et on a trouvé des textes d'alliance qui nous expliquent ce rituel. Le rituel a cette fonction d'être un rite imprécatoire. L'idée, c'est que on vient de faire alliance, on vient de passer un accord. S'il y en a un des deux qui rompt l'alliance, qui rompt l'accord, eh bien, il finira comme l'animal. Au fond, c'est la menace.
C'est la menace de la vengeance.
Voilà. C'est pas la menace de la vengeance, c'est la menace de la punition. Si tu romps l'accord, si tu ne respectes pas ta part du contrat, tu finiras comme ça. Et les deux passaient librement, hein, je veux dire, on passe un accord tranquillement.
Est-ce que vous pouvez dire quelque chose sur le verset 6, sur ce passage, où les deux traductions seraient valables ? Je pense que la Bible est un livre qui a été écrit par les hommes,
qui s'interrogeait sur qu'est-ce que c'est qu'une puissance supérieure, ou qu'est-ce que c'est que Dieu, ou comment Dieu nous habite, ou comment Dieu nous parle, ou comment,
oui,
est-ce qu'il nous protège. Et avec cette interrogation qui est très humaine, quand on traverse des épreuves, est-ce que Dieu est contre nous, ou est-ce que Dieu est avec nous? Moi, je lirais comme ça ce passage.
Hier, à la rentrée de la faculté de théologie protestante de Paris, c'était le professeur Gert Tyson qui parlait. Il parlait notamment de la foi, en termes de confiance inconditionnelle. Et au fond, ça rejoint un peu ce que vous dites. C'est qu'il y a un moment dans notre existence, dans notre cheminement spirituel, où il peut y avoir cette incertitude, cette hésitation. Et puis à un moment donné, c'est le stade éthique finalement. Puis après, il y a le stade religieux, pour reprendre Kierkegaard, mais ce n'était pas Kierkegaard d'ailleurs. Et là, en quelque sorte, la lumière est faite. La clarté est faite et la confiance nous donne ce sentiment de sécurité. Et là, il n'y a plus d'hésitation entre le dans ou le contre. On sent que c'est le avec, enfin que c'est le dans, que Dieu n'est pas contre nous, mais avec nous. Mais là encore, ça ne peut être qu'une expérience personnelle qui valide cela. C'est pas un raisonnement qui, voilà. Et donc, c'est chacun sur son étape personnelle qui peut atteindre ça. Alors, peut-être que, vu l'heure, dans les 4 minutes qui nous restent... Ouais. C'est pour dire, il ne reste plus que 4 minutes. Il s'agit de ne pas louper la fin. Alors, je vous propose quelque chose peut-être d'un peu pratique. C'est à partir de ce texte, ce que Lita Basset propose comme étape pour gérer le mal subi. Ouais, je dirais que c'est le côté théologie pratique. Vous les écoutez si vous souhaitez, vous les notez si vous souhaitez. Vous pourrez me les redemander si vous n'avez pas le temps de noter, tranquillement après. Mais je vous les livre comme différentes étapes qu'elle pose. La première chose, c'est d'assumer le mal subi comme une réalité indissociable de la vie. Assumer le mal subi comme une réalité indissociable de la vie. Vous savez, c'est cette idée que quand il y a de l'ivraie qui pousse dans un champ où il y a du bon grain, eh ben, on ne cherche pas à retirer l'ivraie, on fait tout pousser en même temps de peur d'arracher le bon grain aussi. À travers l'exemple de ce serviteur souffrant, refuser de l'expliquer par la culpabilité ou la malédiction. Il ne cherche pas à se justifier, le serviteur souffrant. On n'essaie pas de trouver ce qu'il a fait de mal, on ne sait pas de quoi que ce soit. On ne cherche pas à se justifier, on est justifié par Dieu seulement.
Ça, c'est quand même une question que, oui, vous aurez volonté poser.
Posez-la.
C'est quand même l'aspect qui est un peu, qui reste obscur après tout ce que vous avez dit, c'est qu'on revient quand même très souvent sur l'iniquité. Ce n'est pas sans l'iniquité, mais c'est l'iniquité des autres.
Oui.
Puni, frappé. Il y a quand même cette notion de péché qui est au cœur du texte et qui est complètement, justement, éludée dans la réponse que donne le Christ concernant la question de l'aveugle, puisque justement il passe à une autre réponse, c'est-à-dire c'est pas le pourquoi de la souffrance, mais c'est qu'est-ce qu'on en fait.
Absolument.
Et comment on réagit. Et c'est votre réponse aussi, si,
oui,
j'ai bien compris, mais la question du pourquoi, elle reste quand même, elle reste dans les textes et elle reste tout à fait naturelle pour tout être humain. C'est vraiment la première question qui se pose au cœur de la souffrance, c'est pourquoi la souffrance.
Oui.
Et là, il n'y a pas de réponse. La réponse, c'est de ne pas donner de réponse.
Et vous pouvez lire la quarantaine de chapitres de Job qui est entièrement consacrée au mal et à la souffrance. Il y a zéro réponse là-dessus. Mais dès le début, de toute façon, vous pouviez savoir qu'il n'y aurait pas de réponse. Parce que il y a une sorte d'interdiction. Il n'y a pas beaucoup d'interdits dans la Bible, mais il y en a un. C'est la consommation du fruit, de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. C'est pas pour vous enquiquiner, en fait, que l'arbre est interdit. C'est pas pour vous embêter, je vous assure. C'est juste pour vous éviter de penser qu'il serait accessible. C'est qu'en fait, il n'y a pas cette connaissance du bien et du mal. Bon, tant pis, je vous donnerai les étapes un autre jour, peut-être. Mais... Non, mais c'est pas grave, je trouve que c'est une question très, très importante et il faut absolument qu'on la traite. il n'y a pas cette connaissance du bien et du mal.
Mais il y a le péché, là aussi, dans,
alors, dans cette le péché, vous voyez, c'est un mot qui n'apparaît pas dans ce texte.
Si, ou... le péché de mon peuple.
Ah oui. Ouais, ouais. Ah ouais. Ouais, ouais. Mais, non, non, c'est vrai. Mais c'est parce que c'est pas le péché, c'est pas rata, c'est la révolte, c'est pour ça. C'est pas rata. C'est pour ça, en fait. C'est pas rata le péché, c'est plutôt la révolte. Vous voyez, et je trouve que ça dédramatise un peu. Pour répondre à votre question, voilà, je reprends l'épisode d'Adam et Ève dans le jardin. Donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Puis ils voient que finalement, ça serait peut-être bien d'en consommer. Et puis, bon, peut-être qu'ils seront comme Dieu, mais peu importe. Après tout, on a envie de savoir le bien et le mal. On a envie de comprendre pourquoi. Eh bien, ils y goûtent. Et qu'est-ce qu'ils découvrent quand ils sont goûtés? Ben, ils découvrent qu'ils sont nus. Je veux dire, comme connaissance, bravo, quoi. Je crois que c'est un texte qui ne nous dit pas que ça nous est interdit parce qu'on ne le mériterait pas. Il nous dit juste que c'est une illusion de penser qu'on peut savoir ce qui est bien, ce qui est mal. C'est pour ça que moi, je suis très partisan de l'approche ricœurienne, qui est qu'il n'y a pas une connaissance du mal en soi, il y a une connaissance du mal que nous subissons. Et que la réponse du pourquoi, bien sûr, dans la question de la justice, on verra qu'il y a de la culpabilité, qu'il y a de la responsabilité, qu'il n'y a pas que du mal absurde, etc. Mais le problème, c'est que la question du pourquoi peut rapidement devenir une obsession. Et une prison. Et au fond, les évangiles et Jésus essaient de nous faire passer du pourquoi en un seul mot au pourquoi en deux mots. C'est-à-dire l'éthique. C'est ce qui distingue l'éthique de la morale. La morale, elle est enracinée dans le passé. Elle est enracinée dans des valeurs qu'il faut respecter scrupuleusement. C'est une sorte de sacro-saint trésor qu'il ne faut pas toucher. L'éthique, elle est orientée vers l'avenir. L'éthique, elle est orientée vers la construction du bonheur et d'une cité vivable demain. L'éthique biblique, elle est fondée sur les questions que pose Dieu. Adam, où es-tu? Qu'as-tu fait de ton frère? Donc, il y a du présent, il y a du passé, mais à chaque fois, c'est qu'est-ce qu'on va faire de demain, en fait? Du coup, la question du bien et du mal rapportée à la question de l'origine, en fait, c'est un peu une illusion parce que ça pourrait nous laisser penser qu'une fois qu'on a réglé cette question, on a tout réglé. Et je continue un petit peu. Refuser d'expliquer la culpabilité, troisième point, renoncer à accuser autrui en nous élevant au-dessus de lui, mais rester solidaire des méchants, de ceux qui nous ont fait mal, jusque dans leur nuit mortelle. Je ne vous ai pas dit que ça serait une voie simple. Le chemin est raboteux, comme disait la comtesse de Sévigné. Renoncer à accuser autrui en nous élevant au-dessus de lui, mais rester solidaire des méchants, de ceux qui nous ont fait mal, jusque dans leur nuit mortelle. Au fond, c'est pas la supériorité, prendre les choses de haut, c'est de la solidarité, au même niveau. C'est ce que fait Jésus avec la femme adultère. Il baisse les yeux. Il s'assoit, il baisse les yeux. Il n'est pas en train de la fustiger du regard. Et il ne renvoie pas un regard de haine à ceux qui voudraient lapider la femme. Parce que quand on regarde quelqu'un, en fait, on renvoie son regard. Et si le regard de départ est un regard de haine, on renvoie de la haine. Jésus baisse les yeux, il regarde au sol et il écrit à nouveau des paroles de grâce. Les paroles de grâce, c'est moi qui... Accepter d'aller jusqu'au bout de notre impuissance face au mal, dans un silence total, vécu comme la mort du sujet parlant en nous. Bon, c'est un peu le côté psychanalytique de Lita Bassé. Hein. Et retrouver en nous toutes les fibres anesthésiées. C'est-à-dire faire parler la douleur. Faire parler la douleur. Ne jamais la garder. La faire parler. Les lamentations de Jérémie, c'est ça. Il y a de très belles pages de Ricoeur sur les lamentations de Jérémie. La lamentation. C'est dans le bouquin sur le mal. Voilà. La lamentation, c'est vertueux. Mais pas les Jérémiades. C'est ça qui est... Là, c'est les limites ténues. Hein. Très bien. Croire que ces deux attitudes contre nature, c'est-à-dire dénuder sa vie jusqu'à la mort et se laisser compter avec les révoltés, c'est-à-dire fragilité et solidarité, deux attitudes contre nature, Nous, on rêve de tout l'inverse. Fort, puissant et en castagne, constitue le passage obligé pour accéder à notre vérité, à ce qui est juste pour nous aux yeux de Dieu. Parce que c'est quand on est faible qu'on est fort, parce que c'est dans notre faiblesse que Dieu donne toute sa mesure. Bref, renoncer à ce qui était juste à nos yeux, ravaler nos petites valeurs, renoncer à la contrainte qu'on exerce sur nous, parce qu'on est souvent un propre bourreau pour nous-mêmes. Et puis, dernière étape, guérir. Ouais, alors, comme si c'était simple. Guérir, voilà, dernière étape, guérir. Entrer dans la paix, dans le shalom, voilà, tranquille, il n'y a qu'à. Pour qu'en définitive, des multitudes en bénéficient, soient élevées, haut placées, c'est-à-dire en sécurité avec Dieu. Au fond, c'est le début du livre d'Ésaïe, chapitre 2, là, quand toutes les nations montent vers la montagne sainte. C'est pas qu'elles sont obligées, c'est pas qu'on les a forcées ou quoi que ce soit. C'est qu'au fond, il y a une prise de conscience et qu'elles y vont. Et bien voilà, la fragilité de ce serviteur souffrant, c'est ce qui autorise certaines prises de conscience. Preuve en est ce centurion qui est au pied de la croix, dans l'évangile selon Marc, et qui dit « Celui-ci vraiment était fils de Dieu ». Et ben c'est pas en se sauvant de la croix, c'est pas en terrassant ses adversaires que Jésus suscite cette confession de foi, c'est en étant vraiment lui-même, et c'est cette fragilité qui, au fond, bouleverse. Et c'est pas théorique, c'est pas raisonnable, c'est pas rationnel, c'est pas collectif. La foi est vraiment quelque chose d'individuel. Je reviens avec Genèse, avec le petit arbre. Je vous rends attentif, voilà, vous pouvez faire un petit parallèle intéressant. C'est entre le verset 11 du chapitre 53 et puis Genèse, chapitre 3, verset 6. Vous allez voir comment il y a justement quelque chose. Ce sont les mêmes verbes, en fait. Dans les deux passages, ce sont les mêmes verbes. Voir, connaissance. Eh bien, le rapport entre Genèse 3 et puis ici, c'est que mon serviteur a aussi accès à la vision et à la compréhension. Mais cette fois, ce n'est possible qu'à partir du mal. C'est-à-dire que, au fond, le bien et le mal, ici, ce n'est vu qu'à partir du mal. C'est-à-dire à partir de la pleine réalité. Comment vous le dire autrement? C'est à partir du mal de sa vie qu'il verra. C'est-à-dire qu'au fond, la connaissance du bien et du mal, ce n'est pas un savoir théorique extérieur à nous, c'est l'expérimentation que l'on fait à partir de nous. Donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal, regardez la topographie d'ailleurs dans le jardin, c'est très étonnant, lisez le texte avec attention, cherchez où est l'arbre de la vie, cherchez où est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et vous m'en direz des nouvelles la prochaine fois. Vous allez être surpris, il y a une topographie assez étonnante. Soit c'est le même, soit il y en a un des deux qui n'existe pas. Mais ils sont tous les deux au centre du jardin. Et ça, je vous le dis, techniquement, c'est pas possible.
Tout à l'heure, je disais en appel de Dieu que c'était un texte que je trouvais bouleversant. Mm. Maintenant, à la fin de cette séance, je dis que c'est un texte qui est terrifiant.
Mm. Mais on peut être terrifié et bouleversé. C'est ça, bouleversifié en même temps. Bon, si vous voulez. La prochaine fois, ça sera certainement plus réjouissant. Au mois de novembre, ça sera donc le pardon originaire. C'est dans l'évangile selon Luc, au chapitre 5. Voilà, c'est quelques versets que je vous encourage à lire et puis voir comment est-ce que ça peut entrer en résonance avec d'autres textes, si vous le voulez bien. Voilà. Merci.